Libre, l'émission d'actualité culturelle animée par Agathe Callot.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième émission de Quartier Libre à Jazz in Marciac. Nous sommes samedi 20 juillet et il fait toujours aussi bon vivre au festival pour cette 46e édition riche en émotions et en talents. Notre média Quartier Libre a la chance d'être invité par le festival Jazz in Marciac pour couvrir l'intégralité des 18 jours de ce festival. On vous invite à nous rejoindre tous les jours de 13h à 14h pour écouter nos émissions de radio quotidiennes en présence des artistes du festival et des bénévoles. Bien confortablement installés dans nos transats qui sont customisés Quartier Libre, si ça c'est pas beau. Nous proposons aussi tout au long du festival un programme d'éducation aux médias qui est intitulé Radio Summer Camp avec des jeunes de la région. Ils apprendront à utiliser des outils radiophoniques, à réaliser des reportages, des chroniques et à utiliser les logiciels de montage sonore. Et écrire aussi des articles puisqu'ils contribueront aussi avec nous au journal de Jazz au Cœur. Et aujourd'hui c'est Amy, présente depuis mercredi, qui va nous rejoindre pour le direct et présenter avec moi les concerts sous le chapiteau de la toute première soirée de jeudi soir. Pour cette troisième émission, nous allons donc avoir du monde à nos côtés. D'abord, on a la chance d'avoir Alex Terrier qui fait des petits pouces en photo pour dire à quel point c'est super d'être dans le camion studio de radio. Tu es saxophoniste et tu es là aujourd'hui et demain pour le festival Jazz in Marciac. Salut!
Bonjour, merci de m'accueillir.
Merci à toi d'être avec nous. Et on aura ensuite plein d'autres personnes qui vont nous rejoindre. On aura une première chronique des partenaires avec Clémence et Anne qui viendront parler de ce club des partenaires. On aura un horoscope du festival. On invitera aussi, on vous invitera à écouter les messages du public que vous laissez dans notre cabine de témoignage qui est juste derrière. Ils sont très nombreux, donc merci beaucoup. Et enfin, on terminera avec Amy donc pour une chronique sur l'inauguration et la soirée incroyable de jeudi soir avec Pink Martini et Wolf Peck. À l'extérieur, tu es donc programmé, on l'a dit, avec ton quartet aujourd'hui à 16h15 et demain à 14h45 pour les bis sous le chapiteau qui sont juste à côté de nous. Tu es donc saxophoniste et tu as passé beaucoup de temps aux États-Unis et tu fais notamment partie du Mingus Big Band. Mais tu as démarré la musique avec le piano, c'était pas tout de suite le saxophone. Et tu as eu un déclic à un moment pour le saxophone, notamment quand tu as vu un big band. Est-ce que tu peux nous dire lequel et un peu nous raconter cette histoire du déclic?
Ouais, alors le big band exact, je ne m'en souviens pas parce que j'étais très jeune, mais je me souviens que c'était à Sainte-Maxime et devait y avoir un festival ou une sorte d'activité et on était en vacances et je faisais déjà du piano. Mais voilà, c'est vrai que ce soir-là, j'ai entendu du jazz pour la première fois et le saxophone, parce qu'avant je faisais du piano classique. Et du coup, il paraît, mes parents me disent que ce soir-là, j'ai dit « Ok, j'arrête le piano, je veux faire du saxophone et je veux faire cette musique-là que je ne savais pas même comment ça s'appelait.
» Et tes parents écoutaient du jazz à la maison ou pas du tout?
Non, pas vraiment, mais j'ai trouvé derrière des affaires dans le bureau de mon père des vinyles. Il avait quelques vinyles et je m'en souviens très bien, c'était un vinyle de Duke Ellington, un vinyle de Sidney Bechet, un vinyle de Memphis Slim, un pianiste de blues, et un album de Fats Domino.
Et là tu t'es dit bon, finalement il écoutait un peu de jazz.
Oui, enfin, du coup, c'est plutôt moi qui les ai écoutés en boucle, ouais. Ces albums. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé.
Et tu as abandonné complètement le piano, tu t'es dit j'arrête totalement et je passe au saxophone?
Non, j'ai continué un petit peu les deux en parallèle. Mais bon, après, je me suis concentré sur le saxophone. Ouais.
Donc, saxophone, et tu accompagnes notamment le Mingus Big Band. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta rencontre avec ce groupe?
Ouais, alors le Mingus Big Band, c'est un big band à New York qui a été créé par Sue Mingus, la veuve de Charles Mingus, et qui a été créé dans les années 90, 92 ou 93. Et moi, quand j'ai vécu, déjà je suis allé à Boston pour étudier au Berklee College en 2004, et en 2007, lorsque j'avais fini, je suis allé à New York. Et à ce moment-là, j'ai commencé à aller les voir tous les lundis. Ils jouaient tous les lundis. Et du coup, j'ai rencontré les musiciens. À un moment, ils m'ont invité à sit-in, m'asseoir dans le groupe avec eux pour jouer sur un morceau. C'est généralement comme ça que ça se passe d'ailleurs. Soit on te connaît et voilà, on t'appelle, soit on voit que tu viens souvent. Et à un moment, on t'invite à jouer sur un blues, on voit comment tu joues. Et à un moment, Sue Mingus m'a appelé pour faire un remplacement de dernière minute. Pareil, c'est assez classique, ça se passe aussi souvent comme ça. Donc, il faut faire attention parce qu'on peut perdre le gig.
faut pas s'en aller, faut pas être malade.
Donc, on m'a appelé un soir pour remplacer sur le pied levé quelqu'un. Deux, trois fois, et puis voilà, après on m'a appelé de plus en plus. Et après le Mingus Big Band, c'est un orchestre où on est toujours au moins deux ou trois musiciens par pupitre, puisque voilà, on n'est pas forcément tous disponibles le même soir, etc. Donc voilà, ça c'est, il y a une sorte de rotation qui se fait encore aujourd'hui.
Vous êtes combien au total?
Alors l'orchestre en lui-même, quand on joue le Mingus Big Band, on est 14. Et donc voilà, après il y a tout un ensemble de musiciens qui peuvent être appelés un peu à n'importe quel moment. Puis aussi, puisque des fois on part en tournée, mais il y a toujours la résidence à New York hebdomadaire.
Ah oui, voilà. Ok. Donc il faut des musiciens, ceux qui partent en tournée et ceux qui restent là.
Exactement.
Ok. Et ça fait combien de temps que tu accompagnes le groupe alors maintenant ?
Maintenant, ça doit faire une bonne dizaine d'années. Non ? Et voilà, je suis revenu en France il y a 3 ans. Et du coup, bah, j'ai quand même la chance de pouvoir jouer encore avec eux. Je vais à New York assez régulièrement. Et voilà, je joue encore avec eux ou quand ils viennent en Europe.
Et vous avez été nominé aux Grammy Awards. Comment vous avez reçu un peu cette nomination ? Il y a eu quand même un beau succès.
Oui, alors bah, on a été nominé pour un enregistrement avec le Mingus Big Band. Ça c'était super, on n'a pas gagné le Grammy, mais c'était une très belle reconnaissance que d'être nominé, et puis c'était une belle aventure. Moi j'y suis allé, on n'a pas pu tous y aller, mais c'était très sympa de voir comment ça se passait, de vivre cette expérience ce week-end. Donc voilà, c'était très, très sympa, on a rencontré plein de gens, voilà, c'était très cool.
Et alors, donc, il y a ce Mingus Bank Band, mais pas seulement, tu as aussi plein d'autres projets. Tu as aussi collaboré avec des artistes de renom comme Kenny Barron ou encore George Garson. Est-ce que tu peux nous parler un peu aussi de ces rencontres ? Comment tu as réussi à travailler avec ces artistes-là ?
Ouais, alors George Garson, c'était mon mentor à Berkeley. J'ai étudié avec lui. Donc voilà, j'ai passé quasiment 3 ans à étudier toutes les semaines avec lui. Donc je l'ai invité pour mon premier album que j'ai enregistré quand j'étais encore à Berkeley. Et donc voilà, donc ça c'était une très belle rencontre parce que franchement, George Garson, quand je suis allé à Berkeley, je jouais déjà. J'étais déjà pro à Paris. Donc j'ai pu quand même avoir l'opportunité de travailler avec des super profs à Berkeley. Et ensuite, je suis allé à New York. Donc à New York, tout le monde rencontre tout le monde. Et par le Mingus Big Band, j'ai travaillé avec le batteur Tommy Campbell, qui est un batteur qui a notamment joué avec Sonny Rollins pendant longtemps et qui, lui, revenait du Japon. Lui, il avait vécu longtemps au Japon. Et je l'ai rencontré comme ça, on a joué ensemble dans le Mingus Big Band et il habitait pas très loin de chez moi, à Brooklyn. Donc on faisait beaucoup de sessions chez moi, j'avais un grand appart avec un piano, une batterie, on faisait beaucoup de sessions chez moi. Et à un moment, je me suis dit, bon là c'est le moment d'enregistrer un nouvel album. Et j'ai appelé Tommy et je lui ai dit, on commence à brainstormer un peu qui je pourrais appeler pour l'album. Et je lui dis, un peu comme ça pour rigoler, moi j'adorerais, je suis fan de Kenny Barron évidemment, qui n'est pas fan de Kenny Barron. Et il me dit, appelle-le. En plus, je savais qu'il habitait dans le quartier, il habitait pas très loin de chez moi aussi. Et donc voilà, il m'a donné son téléphone, j'ai appelé Kenny Barron.
Et il a dit oui, tout de suite.
Voilà, il a dit oui.
Waouh. Ok. Et justement, tu parlais de ton premier album. On aime bien, sur Quartier Libre, parcourir un peu tout votre parcours artistique. Donc, on va revenir sur ton premier album qui était en quintette, qui date donc de 2007, qui s'appelle Stop Request. On va écouter un petit extrait du titre du même nom et on s'en parle juste après. Ok.
Ok.
Alors, est-ce que tu peux nous parler de la composition de ce premier album et des musiciens avec qui tu jouais à ce moment-là pour ce quintet ?
Ouais, alors tous les musiciens de ce quintet sont des amis à moi avec qui j'étudiais à Berkeley. Alors on va voir si je m'en souviens parce que ça commence à faire
longtemps.
Mais c'est Michel Reiss au piano, qui est un superbe pianiste luxembourgeois. Jeff Davis au vibraphone, superbe musicien portugais, comme son nom ne l'indique pas.
Ne le dit pas du tout.
Il y avait Akira Ishiguro à la guitare, Hoagy Wong à la contrebasse, Nick Falk à la batterie et George Garzon au ténor et moi-même aussi au saxophone.
Wow, ok. Et alors, comment s'est passée la composition de ce premier album ? Comment t'as travaillé cet album ? Qui était le premier pour toi en plus ?
Oui, tout à fait. Alors, j'ai quasiment, je crois que c'est quasiment toutes des compositions. Je crois qu'il y a peut-être un ou deux standards arrangés. C'est beaucoup des influences de l'époque, des influences de George Garzon, des influences de David Binet, que j'écoutais beaucoup, un saxophoniste américain, californien. J'écoutais beaucoup David Binet à cette époque-là. Et il y avait aussi certains morceaux que j'avais écrits déjà à Paris, notamment Mr. Joe. Je crois que je l'avais composé déjà avant. Stop Requested, c'est un morceau que j'ai écrit à Boston. Je ne me souviens plus exactement. Là, vous me prenez par surprise à parler de ce vieil album. Et puis, je sais qu'il y avait des morceaux que j'avais écrits. C'était des devoirs, en fait, pour les cours de Berkeley. Donc, il y en avait qui... Quand on fait des devoirs de composition, c'est pas toujours quelque chose qu'on garde, hein, parce que c'est souvent faut suivre certaines règles, tout ça. Bon, c'est bien pour les travailler, pour comprendre certains concepts. Mais de temps en temps, il y a des trucs qui sont assez sympas qu'on garde.
Des petites pépites qu'on garde. Voilà. Ok. Alors ensuite, en 2014, tu as sorti un autre album qui s'appelle New York Quartet, avec justement un feat avec Kenny Barron. On va écouter un petit extrait d'Alligator Blues que moi j'aime beaucoup et on s'en reparle juste après. Alors, donc on écoutait un extrait de l'album de New York Quartet. Est-ce que tu peux nous dire qui y avait dans ce quartet ?
Ouais, alors tout d'abord, c'est le troisième album. En fait, il y en a un que vous n'avez pas trouvé parce que le deuxième, il n'est pas en ligne.
Oh, waouh ! C'est pas que j'ai fait des mauvaises recherches alors. Non, ça va.
Il s'appelait Round Trip. Et ça, c'est le troisième album. Donc, l'album avec Kenny Barron. En fait, je m'aperçois qu'à chaque album, je diminue l'orchestration. Et je pense même que le prochain sera en duo.
Ok. Voilà.
puisque j'ai commencé, on était 6 ou 7 musiciens. Après, on est passé à 5 ou 6. Et là, on reste à 4 musiciens. Et ce morceau-là en particulier, qui s'appelle... comment s'appelle-t-il ?
Alligator Blues.
Alligator Blues. C'était en fait... j'ai repris la forme d'un morceau de Jimmy Heath qui s'appelle Gingerbread Boy. Et j'ai écrit une mélodie, et la mélodie, pour celles et ceux que ça intéresse, qui connaissent un petit peu, c'est une série dodécaphonique. Ça ne sonne pas du tout comme de la musique sérielle, puisque la musique sérielle, c'est Schoenberg, Webern, etc. Mais j'aime beaucoup la musique sérielle. J'ai écrit pas mal de morceaux basée sur de la musique sérielle, mais qui ne sonne pas du tout comme de la musique sérielle. Enfin, c'est un petit peu difficile de l'entendre comme une série.
Intéressant, d'accord. Et alors, pourquoi ce deuxième album n'a pas vu le jour ?
Le deuxième album, il a vu le jour, c'est juste que il n'est pas en ligne.
D'accord.
Il est uniquement en
physique. On peut l'avoir en
physique.
Vrai, en physique.
Ouais, ouais. Okay, mais super. Il reste très peu de copies. Je dois avoir 3 copies encore avec moi.
Et en 2019, il y a eu la sortie d'un nouvel album qui s'appelle Caminatu, qui est né d'une rencontre avec Léo Montana, Felipe Cabrera, Luc Mille Pérez et Roberto Vizcaíno. Est-ce que tu peux nous raconter cette rencontre avec ces musiciens et cette rencontre aussi avec ce mélange entre jazz et musique cubaine ?
Ouais, alors ça c'est effectivement le tout dernier album. J'avais rencontré en fait Joel Irresuelo, percussionniste à Cuba. J'étais allé jouer à Cuba avec Roberto Fonseca et il y avait Joel Irresuelo. Et Joel Irresuelo qui habite à Paris. Et j'ai trouvé ça super, évidemment. Le jazz cubain, c'est monstrueux. C'est très challenging aussi. C'est très difficile parce qu'ils ont une approche rythmique très différente. Et du coup, j'ai appelé Joël et je lui ai dit « Je voudrais monter un groupe avec toi. » Donne-moi le numéro de téléphone d'un batteur, d'un pianiste et d'un contrebassiste. Et il m'a donné le téléphone de Felipe Cabrera, qui est un des meilleurs contrebassistes, et Luc Mille Pérez, pareil, un batteur cubain qui habite à Paris. Et Léo Montana, on joue avec lui aujourd'hui. Et Léo Montana, on n'est pas bien sûr de s'il a un passeport britannique, mais il est né au Brésil, il a grandi en Colombie,
il vient de partout.
Voilà, il a une biographie un petit peu plus difficile à suivre. Et on a enregistré au Mexique en fait. Et malheureusement, Joël n'était pas disponible pour ses dates d'enregistrement. Et c'est pour ça qu'on a appelé Roberto Vizcaíno, qui est quand même aussi un maître de la percussion. D'ailleurs, c'était un des maîtres de Felipe et Luc Mille. Donc, ils étaient très heureux de retrouver Roberto en studio.
Et on écoutera un petit morceau tout à l'heure. Mais justement, donc tu parles de l'un des membres qui est avec toi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va pouvoir entendre aujourd'hui et demain sur Jazz in Marciac et avec qui tu es pour ce quartet ?
Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Victor Nyberg à la contrebasse et Raphaël Panier à la batterie et Léo Montana au piano. Et on va jouer des compositions originales, et une sorte de mix de tous ces albums, puisqu'il y a quelques morceaux de l'album de Caminatu, des morceaux de l'album avec Kenny Barron, et des morceaux du deuxième album que vous ne pouvez pas entendre. Donc il faut absolument venir à Jazz in Marciac pour pouvoir entendre ces morceaux et éventuellement vous procurer l'album.
Voilà, puisque vous vendrez des disques, j'imagine.
Exactement.
Super. Et où est-ce qu'on peut se les procurer si on veut des disques ?
Eh bien, il faudra venir me voir après le concert ou sur Internet.
Et alors une dernière question, je ne sais pas si tu as eu le temps de feuilleter un peu la programmation. Si tu devais donner un nom d'artiste à ne pas louper pour les festivaliers de Jazz in Marciac, lequel ce serait ? Si tu as donné une recommandation.
Alors, une, j'ai pas eu le temps de regarder parce qu'on vient d'arriver, hein, mais il y en a plein. Je peux en donner, bon, même il y en a qui sont passés, mais évidemment j'aime beaucoup Émile Parisien. Chris Potter, d'ailleurs c'est ce soir,
ce
je crois.
Soir,
bah voilà, Chris Potter,
voilà.
Il faut absolument y aller parce que c'est quand même monstrueux. Et Chucho Valdés, monstrueux.
Immanquable.
Voilà, bon, y en a plein d'autres, hein, mais Richard Galliano, voilà, c'est.
Bon, je t'ai pris au dépourvu.
Voilà. Non, mais il y en a plein, mais voilà, quand même, là je vous ai donné. J'ai essayé de faire une petite sélection, mais évidemment, c'est que des superbes artistes, donc il faut venir tous les jours.
Merci beaucoup Alex Terrier. On va donc terminer cette interview en musique et on va écouter Pinocchio. Et rien que ce morceau, on entend la joie qu'il y a derrière. Donc on écoute ça et on se retrouve juste après avec des nouveaux invités.
On aurait un do tec.
Alors l'heure est venue maintenant d'accueillir de nouveaux invités et pour cette émission, donc cette troisième émission déjà, on vous propose un nouveau format déjà, et oui, une chronique sur le club des partenaires et ce sont Anne et Clémence de Mécène Productions qui vont nous parler aujourd'hui du club des amis puisque oui, il y a plusieurs clubs, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, vous pouvez réécouter la première émission et on aura également avec nous Jean-Jacques Lestrade qui est aussi mécène et ami et qui va pouvoir un peu nous livrer son témoignage de ce que c'est d'être mécène ami. C'est parti.
La minute du club des partenaires de Jasmine Marcillac.
Eh ben bonjour à tous, on est ravis d'être ici avec toi Agathe pour parler du club des partenaires qui réunit donc toutes celles et ceux qui veulent soutenir le festival. Et aujourd'hui on va faire un focus sur le club des amis qui concerne directement les particuliers. Donc pourquoi, une fois plus, adhérer à ce club ? Eh bien, pour soutenir tout ce qui concerne la programmation artistique, mais pas que. Je vais laisser la parole à Clémence qui va expliquer tous les projets, les beaux projets qui existent grâce au festival.
Donc effectivement, soutenir le festival, donc c'est contribuer à cette programmation artistique d'excellence. Et c'est aussi garantir une liberté créative, on y tient beaucoup. Avoir des soutiens financiers permet au Festival Jasmine Marcillac de faire la programmation de son choix et de ne pas être contraint par, les contraintes budgétaires. Par ailleurs, ça permet de promouvoir les talents émergents, mais aussi, vous connaissez les Marcillacais, connaissent très bien les ateliers d'initiation à la musique jazz au collège de Marcillac. Et cette année, Agathe, ici présente, anime la Radio Summer School, qui est un projet d'éducation aux médias, qui est nouvellement arrivé dans la programmation de projets de sensibilisation du festival Jasmine Marcillac. Évidemment, les soutiens des mécènes et des amis permettent d'encourager un engagement éco-responsable et de défendre des valeurs citoyennes.
Alors concrètement, le club des amis, donc je l'ai dit, ça concerne les particuliers, donc toute personne, toi, Clémence, Jean-Jacques à ma gauche et moi, donc toute personne qui souhaiterait soutenir le festival. Et la loi est super bien faite puisque en soutenant le festival, en faisant donc un don, de l'argent, on bénéficie d'une réduction fiscale de 66%. Et puis en plus, le festival a la possibilité de donner des petits, tout petits cadeaux. La loi encadre beaucoup ce système de petits cadeaux, mais quand même, on en bénéficie, notamment la possibilité d'aller au jardin des partenaires, de faire chill out l'après-midi, de bénéficier des concerts le soir. Et donc tout ça, vous le retrouvez sur le site internet qui est très détaillé. On peut adhérer donc à ce club des amis à partir de 150 €, ce qui, une fois la réduction fiscale appliquée, ne revient qu'à 51 €. Et puis après, on peut monter et ne jamais s'arrêter. Et on encourage tout le monde à le faire. On en profite pour remercier tous ceux qui sont déjà au club des partenaires, bien sûr, mais aujourd'hui encore plus le club des amis. Et j'en profite pour remercier chaleureusement Jean-Jacques Lestrade, qui est le grand donateur du festival et qui est un fidèle.
Donc je précise avant de laisser la parole à Jean-Jacques que pour faire un don, c'est très simple, il suffit de vous rendre sur le site internet de Jasmine Marcillac ou de venir nous voir ici près du camion et de scanner le QR code du club des partenaires et vous pouvez directement faire votre don par carte bancaire.
Merci les filles. C'était donc Anne et Clémence de Mécène Productions. Maintenant, si vous avez envie de faire un don, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je me tourne vers vous Jean-Jacques. Est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter votre histoire et votre lien avec Jasmine Marcillac ? La première fois que vous êtes venu, c'était quand et qu'est-ce que ça vous a fait ?
C'est il y a très longtemps. je me souviens plus très bien. Je pense que ça doit faire plus de 30 ans. Il se trouve que j'ai un ami qui habite un village à côté, Tillac, qui est mon témoin de mariage et qui nous avait invités à venir passer une soirée à Marcillac. Donc je suis venu la première année une soirée, après quelques années après on continue à venir une soirée, deux soirées, trois soirées et ensuite on a pris l'habitude de venir quasiment une semaine à Marcillac. Et la petite anecdote, c'est que une année, j'ai vu qu'il y avait moyen d'être sponsor. Il y avait une soirée, c'était une soirée Colas. Alors je veux dire, c'est très vieux, puisque c'était le début d'Internet. J'ai vu qu'il y avait cette soirée Colas, je suis rentré à Paris, et j'avais pris le petit dépliant, et le petit dépliant, il y avait une adresse mail, c'était contact jazinmarcia@aol.com, un truc comme ça. J'ai dit, je vais faire un mail, et j'ai fait un mail, et j'ai dit, voilà, je suis passé cet été, j'ai vu qu'il y avait une soirée dans l'entreprise, comment ça s'organise? Quinzaine de jours après, j'ai un monsieur qui m'appelle au téléphone, j'avais laissé mon numéro de téléphone, il m'appelle au téléphone, il me dit, oui, bon, vous êtes qui, tout ça, bon. Alors j'ai dit, écoutez, j'ai vu qu'il y avait une soirée, ça c'était pas des partenaires ni sponsors, je pense à l'époque, peut-être partenaires, je sais pas, qui était Colas, comment fait-on pour organiser la soirée, une soirée comme ça? Alors, le monsieur me dit, ah, j'ai peur, on va regarder, je vais vous rappeler. Mais j'étais très fier parce qu'on avait un site internet. Alors j'ai dit, écoutez, vous allez sur le site internet de la société, vous allez regarder qui on est, tout ça. Il est allé sur le site et puis il me rappelle, une semaine, 15 jours après, il me dit, mais c'est sympa, l'histoire de votre société, elle est sympa et tout. Mais comment vous êtes arrivé ici? J'ai dit, écoutez, j'ai mon témoin de mariage qui est de Tillac. Ah, la Pouge. Jacques Lapouge. Je le connais, tout ça, mais comment vous connaissez Jacques? Mais j'étais à l'école, j'ai fait une école d'ingénieur à Tarbes, c'est pas très loin. Hein. Je suis corrézien, briviste, bon, j'ai fait une école ici. Et voilà, c'est comme ça qu'on est venu. Il m'a dit, c'est super sympa, la société que je dirigeais à l'époque s'appelle Ponticelli. Elle était, on parlait un peu d'elle parce que le dernier poilu de la guerre de 14-18 s'appelait Lazare Ponticelli, il était encore vivant, il est mort à 110 ans, hein, il a eu des obsèques nationales. En étant dernier poilu de la guerre des 14 en plus. Donc il a dit, c'est sympa et tout, je veux bien. Alors je lui dis, comment ça marche? Il m'a dit, écoutez, vous donnez ce que vous voulez et puis nous on s'organise sur place pour vous permettre de passer une soirée. Alors la première fois, on a dû venir à 10, l'année d'après on était 20, l'année d'après on était 40, 50. Bon, bref, à la fin, 20 ans après, on était 150. On vient mener 150 et j'ai amené pendant des années beaucoup de clients parisiens principalement d'ailleurs, qui venaient passer ici de très bons moments, et tout le monde était redemandé cette période-là. Bon, après, la vie évolue, le Covid est arrivé, les changements d'organisation, les lois aussi, pour être clair aussi, parce que les lois pour les entreprises ne sont pas toujours très faciles, en particulier au niveau compliance et autres, donc c'est un peu compliqué, mais voilà, donc je me suis transformé en tant que mécène d'entreprise, en tant que mécène personnel. J'ai continué à les aider parce que Marciac, c'est vraiment très bien, et je pense que plus on aura de partenaires particuliers comme ce que vous faites aujourd'hui, mieux ça sera. Ouais.
Et alors peut-être si vous aviez un mot à dire à quelqu'un qui aurait envie de donner quelque chose, qu'est-ce que vous pourriez...
Alors moi je pense qu'on ne peut pas donner sans voir. Et je pense que Marciac, il faut venir, parce que Marciac, ça se vit. C'est des grands moments. Hier soir, je ne sais pas si vous étiez au concert, mais ça a quand même été un énorme moment. Les deux concerts en Émile Parisien, ça a été quand même... avec l'orchestre symphonique, l'autre côté, l'autre après avec sa bande la Déségarée, c'était extraordinaire. Et franchement, c'est toujours un peu compliqué de convaincre des gens de venir, et ceux que j'ai réussi à convaincre, c'est toujours des gens qui sont venus. J'ai amené quand même un certain nombre de sponsors ici, de mécènes, et c'est parce que les gens sont venus, et les gens sont venus et revenus. Et je pense que Marciac, ça se vit. Et c'est vraiment des grands moments de bonheur, et je pense que c'est... Je le dis aussi de manière très claire, même au niveau business, c'est aussi extraordinaire parce que c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix, parce que les retours peuvent être terribles. Voilà. Mais moi, j'en ai bien profité et j'essaye de véhiculer encore ça auprès de moi, d'amis et autres. Voilà.
Merci beaucoup pour ce témoignage. Eh bien, c'est terminé pour cette partie avec toute cette chronique autour du mécénat et du club des partenaires. On se retrouve très bientôt, puisqu'il y en aura trois prochaines qui définissent chaque type de partenaire qu'on peut être. On se dit à très vite et on va faire une petite pause musicale. Merci, pardon, parce que vous avez envie de dire un petit mot.
Merci beaucoup Agathe et merci Jean-Jacques.
Et donc on va faire une petite pause, cette fois-ci pas musicale, mais là on va vous faire écouter les extraits des cabines de témoignages qui est installé juste derrière au camion studio de radio. On voit que ça vous plaît énormément, vous êtes très nombreux à laisser vos messages, ils sont incroyables, je prends vraiment beaucoup de plaisir à les écouter, à les monter. Donc voici un petit montage des témoignages d'hier, et on espère qu'ils vont être tout aussi nombreux chaque jour jusqu'à la fin du festival. C'est parti. Les échos de la cabine.
La minute témoignage.
J'ai chaud et c'est bon.
Bonjour Marciac, c'est super. On n'a jamais eu autant de musiciens partout. Il fait beau, on mange bien et les gens sont très sympas. Ça nous donne un peu d'espoir pour la suite. Merci Marciac, bravo.
Alors le festival est vraiment sensationnel. On revient chaque année, c'est vraiment le top. Continuez comme ça. À bientôt.
Alors moi, aujourd'hui, j'ai trouvé l'amour de ma vie. C'est le clarinettiste du groupe Mama Shakers qui passe sur le bis. Trop beau, trop fort, je l'aime, voilà. Bisous.
Bonjour Agathe, ben, tu vois, c'est Arnaud à l'appareil, Wesno. Je suis musicien, je joue sur le festival. Voilà, je suis ravi de parler à cette belle halte. Donc on peut venir m'écouter à partir de lundi au restaurant La Fabrique. Le projet c'est Wesno, c'est des chansons de jazz, c'est sympa, c'est pétillant, c'est souriant. Voilà, je vous attends tous et au plaisir. Salut Agathe.
Un petit coucou de trois drôles de dames en goguette à Martiac. On est du coin, on adore, c'est sympa. Il y a plein d'endroits, plein de petits jardins secrets, pas si secrets, où on peut vagonoder. Et voilà, c'est trop top. Faut venir.
Coucou, c'est Audrey et Pierre-Yves, on est de Bretagne. Et merci, merci pour tout ce magnifique festival en folie, avec des endroits un peu impromptus qu'on a découverts. Comment ça s'appelle l'endroit où on va à la jam session là ? Super endroit, l'endroit de la jam session. Et ça, le off, le in, le out, enfin tout est funky quoi. Merci, bisous bisous. Il faut attendre le bip. Bip, bip. Bon bah. Ah oui, pardon. Au revoir.
Et voilà, écoutez, vous avez vu, c'est assez drôle, il y a un peu de tout. Il y a des déclarations d'amour, il y a de l'amour pour le festival et c'est ce qu'on voulait. Et il y a aussi des gens qui ne comprennent pas bien le fonctionnement du téléphone. C'est très simple, on attend la fin du message vocal, on laisse un petit message et ensuite ça raccroche. Voilà, et ensuite on raccroche et c'est terminé. Et ensuite, c'est moi qui fais le beau montage de cette fin, bref. Alors donc, encore une autre nouveauté puisqu'on avait envie sur cette émission d'avoir des choses différentes et donc je crois qu'il est l'heure de l'horoscope.
Salut Martiac, c'est Edith et Javotte. On t'a concocté un petit horoscope pour que tu saches d'ores et déjà à J+3 comment va se dérouler cette 46e édition pour toi.
On te souhaite dans tous les cas de passer un bon festival. N'oublie pas de boire de l'eau, chope un éventail et laisse-toi surprendre.
Bélier, à l'image de ton compagnon de signe solaire Joe Dart, bassiste de Wolfpack, ton pouvoir d'attraction défie toutes les lois de la physique durant ce festival. Le groove qui irradie de ta personne est irrésistible. On te suivra jusqu'au bout de la nuit.
Taureau, tel Martin, bénévole qui scanne méticuleusement les cartes à la marmite tous les midis et tous les soirs, tu es la personne la plus fiable de Jazz in Martiac. On peut toujours compter sur toi et on sait où te trouver. Tes amis te remercient.
Gémeaux, tels nos techniciens du chapiteau, Pierre et Greg à la lumière ou Fab et Baptiste au son, trouve-toi un acolyte, un alter ego, un bras droit, car voici ta mission. Faire un travail impeccable. Tu resteras dans l'ombre, mais une chose est limpide. Sans toi, le festival n'existe pas.
Cancer, comme Olivier, en charge du petit déjeuner du camping bénévole, tu es l'incarnation du calme avant la tempête. Si tu vois d'autres festivaliers en galère, n'hésite pas à aller chercher un gobelet et à leur servir un petit café. Tout va bien se passer. Ou peut-être pas.
Lion. Telle Angela des Mama Shakers, tu risques un trop plein d'énergie. Tu sautes partout, tu envoies du bois, tu claques des pas de Charleston trop stylés. Tu gagnes le cœur des foules. Toutefois, gaffe au claquage, l'ami.
Vierge, à l'instar de Célia, chanteuse lyonnaise phénoménale, future étoile de l'Astrada, soleil de nos cœurs, sache que seule ton humilité surpasse ton talent. S'il te plaise, ne change rien. Jamais.
Balance. Comme pour Winton, la question est sur toutes les lèvres. Où es-tu, cher ami ? Que fais-tu ? Loin des yeux, près du cœur, on pense à toi. Tu nous manques. Reviens vite.
Scorpion, sache qu'aucun artiste, technicien, bénévole ou festivalier ne revendique ton signe. Est-ce à cause de ta mauvaise réputation ? Est-ce parce que tu te ris de notre travail d'astrologue ? Nous ne sommes pas dupes, Scorpion. Nous te savons tapis dans l'ombre, haricaner dans ta barbe, en attendant de croquer les orteils qui dépassent des tentes.
Sagittaire, le camping sauvage est ton animal totem, ton patronus, ton phare jusqu'aux premières lueurs du jour. Ton énergie te pousse à traverser la cour des miracles du festival. Rien ne t'arrête. Il n'y a rien à faire, tu as le jazz au fiac.
Capricorne, demain dimanche 21 juillet, c'est ta pleine lune. Nous irons droit au but. Ce bouleversement céleste est placé sous le signe de la destruction pour mieux bâtir le futur. Insulte ton patron, quitte ton taf, pars en sucette, apprends à jouer de la musique, saltimbanque, sers-toi un verre de vin local et kiffe la vie. Why the flock not?
Verseau, tout comme le festivalier Thibaut, tu danses à la lampe mère comme si demain n'existait pas. Tu entres en transe pour te libérer et tu te fous copieusement du reste. Tu vas où le vent te mène et tu n'as pas peur d'offrir à ton tour les bières que tu reçois en offrande. Continue de croquer la vie à pleines dents.
Poisson ainsi que Bianca, festivalière d'un soir et grande voyageuse, libre d'aller où elle le souhaite, tu arpentes le monde et te laisses surprendre par tous les imprévus. Au hasard, un festival de jazz bien loin des Antilles. Qu'on se le dise, tu n'es pas là pour être ici.
Merci beaucoup. On vous retrouvera pour d'autres choses puisqu'il y aura une criée et ça ce sera mercredi, je crois.
C'est mardi 23 à 13h30.
Voilà, merci. J'ai pas le planning.
Tout va bien, je suis là.
Merci beaucoup. Et bien maintenant, je suis ravie d'avoir avec moi Amy qui a démarré donc le festival avec nous, qui fait le dispositif Radio Summer Camp, un atelier d'éducation aux médias. Tu es déjà là avec nous, tu es même venue un samedi et ça c'est pas rien, Amy. Est-ce que tu es contente d'être au micro?
Je suis très heureuse d'être au micro.
Et elle est même pas stressée, elle me dit non mais moi je fais de la scène depuis tellement longtemps, tout va bien. Et ben aujourd'hui nous on vous propose un reportage sur la soirée d'inauguration pour revenir un peu sur toute la vie du public, on vous a pris des extraits. Voilà, et ben je crois qu'il est l'heure de cette petite chronique. Et bien c'est parti.
Donc bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter une chronique sur le tant attendu premier jour et premier concert au festival Jazz in Marciac. Donc la première soirée sous le chapiteau affichée guichet fermé pour les premiers concerts de Pink Martini et Vulspec. Dès notre arrivée, nul doute, le monde et l'ambiance étaient au rendez-vous.
Vous connaissez forcément cette mélodie qu'on a toujours entendue lorsqu'on préférait se la couler d'os alors qu'il fallait travailler. Évidemment, on parle bien de ce tube mythique « Je ne veux pas travailler » du groupe Pink Martini, fondé en 1994 par Thomas Mac Landerdahl. Ils nous ont offert 1h30 de concert intense qui ravivait quelques bons souvenirs. Le groupe invitait également des chanteurs guests pour accompagner le show et je crois qu'on a tous été plutôt carrément envoûtés par Storm Large. On écoute un extrait tout de suite.
On a bien vu que Pink Martini était très attendu ce soir-là. Ils ont alors fini de conquérir le public martiaquais en reprenant les airs de Porquet et Basse où nous avons pu chanter tous en chœur.
Comme vous le savez, avec Quartier Libre, on adore donner la parole au public. C'est ceux et celles qui font vivre le festival. Et vu la folie dans le public, on avait hâte de les entendre témoigner après ce premier concert. On les écoute. Donc là, ce soir, c'est la première soirée. Vous venez de sortir de Pink Martini. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé de ce concert ?
On a beaucoup aimé. C'est vrai que moi, c'est une musique que j'écoutais dans la voiture avec mes parents parce que c'était une cassette qu'on avait. Donc, c'est vrai que je connaissais plein de chansons. Donc, j'ai apprécié quoi, de chanter et tout. Et puis, c'est chouette que cette année, on puisse être debout aussi. Ça donne plus d'espace. On peut bouger. Quoi.
Fin de Pink Martini, maintenant place à Wolfpack. Le groupe américain fondé en 2011, accompagné de Cory Wong, a continué de mettre le feu sous le chapiteau, notamment avec le morceau Back Pocket. Cela ne vous dit sûrement pas grand-chose, mais écoutons-en un extrait qui va vous rafraîchir la mémoire.
Directement dans la fosse avec nous. Les musiciens avaient le sourire aux lèvres, ils avaient une énergie plus que débordante et ils ont bien su nous le transmettre. Ça dansait, ça criait, ça sifflait, ça applaudissait dans tous les sens et ça nous a donné du baume au cœur.
Tout le monde aurait voulu que ce concert ne se termine jamais, le public était unanime lors du rappel. Nous sommes également allés à la rencontre du public à la fin du concert qui a été enchanté, même si certains auraient aimé être encore plus proches du groupe. On les écoute tout de suite.
Moi je suis un vrai fan de Wolfpack et ça déçoit jamais. Les mecs sont trop forts, c'est beau. Théo chante comme un dieu. Moi j'adore ça. Après le festival a fait un truc grave à mon avis. Il a coupé tout le devant de la fosse, là où on a envie d'aller danser, d'aller voir les gens qu'on aime de près. Donc il y avait des barrières qui bloquaient l'accès à l'endroit intéressant de la salle et on s'est demandé pourquoi. Donc je suis très content, très déçu.
Non, c'était trop trop bien, on attendait vraiment Wolfpack en France et je sais pas quand est-ce qu'ils sont venus pour la dernière fois, mais ça devait faire des années ou alors jamais, je sais pas. Peut-être que je suis trop jeune, mais franchement c'était trop trop chouette, je suis trop fan de ce groupe et le bassiste incroyable, Cory Wong incroyable aussi, tout le monde incroyable, j'ai trop kiffé, trop chouette.
C'est trop bien pour danser, il y a une trop bonne ambiance, même si on ne connaît pas, on peut trop danser, c'est trop chouette.
Comme vous avez pu l'entendre, c'était une très belle première soirée de festival. On a vu un paquet de sourires sur les lèvres du public, mais aussi des artistes. Et c'est ce qu'on aime à Marciac. Ça annonce en tout cas un festival joyeux et plein de découvertes. On termine ce reportage avec un avis du public sur cette soirée de lancement et surtout sur l'ambiance du festival.
Non, on vient pratiquement tous les ans. Et surtout pour voir Wolfpack et la première partie également. Mais comme il fait très chaud, on est sorti pour prendre l'air.
Comment décrire Jazzin Marciac? Ça reste convivial, on passe de bonnes soirées, des belles journées également, c'est animé.
Bah pour moi c'est une belle découverte, une belle diversité, une belle ambiance, c'est très chouette. Ça fait des scènes un peu incongrues, à discuter avec des gens qui fument le cigare et d'autres qui fument autre chose, et voilà, c'est trop chouette.
Voilà, c'était une chronique d'Amy et Agathe. Merci Amy d'avoir été avec moi pour cette première chronique.
Avec plaisir.
Et c'est déjà la fin de Quartier Libre. On vous invite donc à nous rejoindre tous les jours de 13h à 14h pour des émissions de radio quotidiennes en direct sur notre camion studio de radio. Et on vous dit à demain pour le quatrième jour. Et surtout, n'oubliez pas de continuer à laisser vos messages dans notre cabine de témoignages. Insérez aussi des petits mots dans la boîte qui sera dédiée à la criée. Et on retrouve toutes nos émissions et toutes nos productions sonores sur quartier-libre.eu et sur le Spotify de Quartier Libre. Allez, à très vite et à demain.